Mozart, en somme, pourrait parler ainsi. Je ne suis ni monarchiste, ni jacobin, ni républicain, ni démocrate, ni anarchiste, ni socialiste, ni communiste, ni fasciste, ni nazi, ni raciste, ni antiraciste, ni antimondialiste. Je ne suis ni classique, ni moderne, ni postmoderne, ni marxiste, ni freudien, ni surréaliste, ni existentialiste. À la rigueur, vous pouvez me présenter comme singulier universel, c'est-à-dire catholique dans un sens très particulier, ou encore comme franc-maçon d'une façon très personnelle, c'est-à-dire universel, singulier. Vous voyez là une contradiction ? Pas moi. En vérité, je suis ce que j'ai été, ma musique. Je serai ce que je serai, ma musique. Je suis uniquement ce que je suis, cette musique. Et voici donc l'extrait du film de Milos Forman, Amadeus, dont vous parliez, Philippe Soler, sur lequel j'ai lu un extrait de votre texte qui parlait en fait à la place de Mozart. Vous le qualifiez de singulier universel, c'est ce qui lui conviendrait le mieux ?
Singulier, c'est évident. Universel, c'est pour ça que j'emploie le mot catholique, qui en grec veut dire universel, tout simplement, catholicos. Voilà. Donc, c'est un franc-maçon singulier et un catholique très singulier. Et là-dessus, c'est sa musique qui compte. Bon, il n'est que sa musique. Il s'est battu pour sa musique toute sa vie, vous savez. Jusqu'à Mozart, les musiciens étaient entretenus par la cour ou l'église. Le premier à décider qu'il va être tout à fait indépendant jusqu'à produire des souscriptions pour ses quintettes, etc., par exemple, ou pour ses concerts de piano quand il joue, c'est Mozart. C'est le premier révolutionnaire, on peut dire, à cause de tout ça. Le premier révolutionnaire, d'ailleurs la révolution arrive assez vite, dont il est porteur, en fait, par « Viva la libertà hein, !» Voilà. Donc, c'est le premier à être indépendant. Il travaille pour son propre compte, ce qui va le mettre dans des situations parfois extrêmement dangereuses, parce que comme il joue au jeu, il a besoin d'argent. Mais il est indépendant. Il écrit ce qu'il veut. Personne ne peut lui dicter ce qu'il a à écrire. Ni l'église, ni la cour. Voilà. Donc les livrets, il fait très attention. Et ça, c'est très révolutionnaire, ça a été très mal pris. Qu'est-ce que vous voyez dans les Noces de Figaro ? Les gens qui sont dans la salle, ils sont représentés sur scène. Qu'est-ce que vous voyez dans Don Juan ? La même chose, c'est-à-dire qu'il va se passer des choses qui ne devraient pas avoir lieu. Voilà. Et La Flûte Enchantée est un opéra populaire magnifique, qui a eu un succès fou. Et puis La Clémence de Titus, écrite très vite à la fin. Bon, tout ça, ce sont chefs-d'œuvre sur chefs-d'œuvre. On ne peut pas comprendre comment il a pu écrire autant de chefs-d'œuvre en si peu de temps.
Plus de 600
Pourquoi
en 35
Parce
ans.
Parce que l'illumination qui le conduit est constante. Voilà, il est très rapide. Et en plus, il a une mémoire absolument extraordinaire. Ça commence très tôt. À 5-6 ans, Mozart est super doux et il enregistre tout. Il peut vous recopier de mémoire un air qu'il a entendu à l'église, par exemple.
Voilà. Alors pourquoi Mozart serait-il plus universel qu'un autre compositeur ? Car après tout, c'est la musique qui est universelle et pas forcément le compositeur.
Non, il n'y a pas la musique. Il y a la musique dans l'histoire. Mmh. Avant Mozart, c'est tout à fait différent. Il y a de très grands musiciens, Bach, Handel, voilà. Oui, mais lui, il invente encore une fois quelque chose. Il est sans foi ni loi, sauf sa foi et sa loi.
La tienne. Mais alors justement, peut-être pour comprendre ce que...
Et après, c'est fini.
Pourquoi universel ?
Parce que Beethoven, alors après, c'est la catastrophe de Wagner, si vous voulez. Voilà.
Pourquoi universel ? Un élément de réponse qui serait de dire que finalement, c'est parce qu'il s'adresse aussi bien aux mélomanes qu'aux classes les plus populaires. C'est en tout cas la thèse que soutient Frédéric Ledéon, chef d'orchestre et producteur sur France Musique. Écoutez.
Il était tout à fait fier qu'on chante des airs de la flûte enchantée dans la rue. Il était très content et il disait, quand il écrivait ses concertos de piano, il écrit à son père, il faut que les amateurs puissent se réjouir de ce concerto, les amateurs formés, les mélomanes, mais aussi que les cochers puissent chanter les thèmes. Donc il savait bien qu'on pouvait à la fois être populaire et puis écrire de manière extrêmement riche et subtile. Il voulait les deux. Et c'est peut-être parce qu'il a les deux justement qui restent. Mais ce qui fait qu'il a touché le public tout de suite, c'est parce qu'il a le sens des mélodies qu'on retient, mais une fois qu'on a le truc, il faut encore avoir le talent, ou je risque le mot de génie, pour que ce système fonctionne vraiment. Alors il avait les deux, il avait le fait qu'on pouvait siffler ses airs dans la rue, et puis en même temps, les plus grands connaisseurs, encore aujourd'hui, peuvent dire que c'est une écriture absolument sublime.
Frédéric Ledéon au micro de Thomas Beau. Comment expliquez-vous, Philippe Solers, que s'il touchait tant le public, et tout public confondu, si l'on sifflait ses airs dans la rue, Mozart ait passé sa vie criblé de dettes?
C'est à Prague qu'il a été le plus célèbre. C'est la société de Vienne qui l'a conduit petit à petit à être complètement décalé, refoulé, d'où l'emploi d'un grand opéra populaire. C'est un révolutionnaire, donc. Il est à la fois simple et très compliqué et divin, d'une certaine façon. Donc, Dieu, pour reprendre ça, Dieu est très simple. Et en même temps, tout à fait complexe et infini. C'est son cas. Il est unique. J'insiste sur le côté révolutionnaire de Mozart. Avant, c'est pas comme ça que ça se passe. Et après, non plus. C'est fini. Voilà. C'est lui et lui seul. C'est pour ça que nous sommes là en train d'en parler, encore aujourd'hui, sauf erreur de ma part en 2019, ce qui est quand même extravagant par rapport à quelqu'un qui est mort en 1780.
Mais d'où le sens de ma question. Une telle postérité, un tel succès, y compris au moment où il écrivait, n'explique pas le décalage qu'il y avait avec sa propre existence, le fait qu'il n'ait pas eu la reconnaissance de la société de la musique, qu'il était exclu de Vienne, etc.
Il est très en avance, c'est tout.
Mais pas tant que ça, puisque les gens l'adorent et l'admirent et écoutent ses opéras.
Non, c'est... Oui, j'ai...
Enfin, c'est-à-dire que le public est prêt à le recevoir.
À Prague, pas à Vienne. À Vienne, c'est...
Pourquoi?
C'est
qu'est-ce qui se passe à Vienne?
Parce que à Vienne, c'est beaucoup plus conventionnel, c'est beaucoup plus conformiste. C'est à Prague. Mozart est un révolutionnaire qui n'est pas reçu. Nul n'est prophète en son pays. Comme... Et donc, non. Il est mort dans des conditions d'ailleurs très obscures. Et si vous voulez trouver la tombe de Mozart, vous la chercherez en vain, comme je le raconte dans mon livre. On ne sait pas très bien où il est. C'est-à-dire, il a été jeté dans une fosse commune. Ce qui est quand même un curieux phénomène. Beethoven n'aimait pas les opéras de Mozart. Il trouvait Don Juan absolument impossible. D'où le fait qu'il ait écrit un très mauvais opéra qui s'appelle Fidelio. Et après ça, Wagner, alors, déteste encore plus Mozart. Tout le monde va détester Mozart. Mais vous savez que la haine peut succéder à un amour naissant. Et d'ailleurs, nous en avons la preuve tous les jours dans l'actualité.
À quoi pensez-vous ?
À la énamoration dont le président de la République actuelle est l'objet. C'est-à-dire de l'amour qui tourne à la haine. C'est très rapide.
Vous le comparez à Mozart?
Ah non.
On va laisser la parole à Nietzsche.
Les partitions du président ne sont pas lisables.